Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur...
Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. Éric Maniarakiza et Anastasie Tudiache avec vous. Bienvenue dans cette édition du vendredi 25 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
Léger remaniement ministériel en Côte d'Ivoire. Les affaires étrangères et le logement changent de patron.
Les autorités ivoiriennes ont remis aux autorités burkinabées trois militaires de l'ancienne garde rapprochée de Blaise Compaoré.
En Angola, report du procès de plusieurs dizaines de personnes accusées d'être impliquées dans une tentative de coup d'État.
La Turquie défie les avertissements de l'Europe et menace de rétablir la peine de mort.
Et bien sûr, les sports et l'économie, juste après le journal. Remaniement du cabinet ministériel en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, la présidence a mis fin aux fonctions de deux ministres, n'est-ce pas Bagassi Koura?
Selon un décret signé ce vendredi par Alassane Ouattara, il s'agit du ministre des Affaires étrangères Albert Mabry-Touakeuse et du ministre de l'Habitat et du Logement social Conan Niamien. Marcel Amon Tano, directeur de cabinet du président de la République, assure l'intérim du ministre des Affaires étrangères selon un autre décret du chef de l'État ivoirien, tandis que Mamadou Sanogo, l'actuel ministre de la Construction, va assurer l'intérim du ministre de l'Habitat et du Logement social. Le décret ne donne aucune raison de ces limogeages, mais on sait que les deux ministres ont récemment claqué la porte du RHDP, la coalition au pouvoir, pour aller séparément avec leurs partis respectifs aux législatives de décembre.
Les autorités ivoiriennes qui ont remis aux autorités burkinabées trois militaires de l'ancienne garde rapprochée de Blaise Compaoré annoncent aujourd'hui du ministre de la Sécurité. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Ils sont accusés d'avoir été impliqués dans le coup d'État avorté de Gilbert Diendéré, entre autres attaques. Monsieur Compaoré.
Ce qu'on a arrêté, ce qu'on appelle le noyau dur. Et c'est les éléments qui vont puiser dans la recherche de la vérité. Je voudrais donc saluer les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et du Burkina qui ont collaboré et qui continuent de collaborer. Et quand je vous disais qu'il faut parler peu, j'avais raison. J'avais qu'il y avait quelque chose qui se passait et le fait qu'on ait gardé la sérénité et la confidentialité dans nos démarches, voilà les résultats aujourd'hui.
Simon Compaoré, ministre de la Sécurité du Burkina Faso.
Aujourd'hui, le parquet de Nouakchott s'est pourvu en cassation après la réduction des peines de 13 militants anti-esclavagistes. Ils avaient été accusés d'avoir participé à une manifestation violente contre l'évacuation d'un bidonville. Le point avec Dili Diko.
Le 18 novembre, la cour d'appel de Zouerat, dans le nord de la Mauritanie, a acquitté 3 des 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, une ONG anti-esclavagiste. 7 d'entre eux ont été condamnés à 4 mois de prison ferme, qu'ils ont déjà purgé. Un autre a écopé de 6 mois et les deux derniers de 3 ans de prison chacun. 7 habitants du bidonville de Ksar, au centre de Nouakchott, ayant participé à la manifestation contre leur déplacement forcé par les autorités, ont été acquittés. Les autres ont été condamnés à des peines de 4 mois à 5 ans de prison ferme. Le parquet avait réclamé 20 ans de prison contre l'ensemble des prévenus, condamnés en première instance à des peines de 3 à 15 ans de prison. Ce matin, le parquet général s'est pourvu en cassation contre le verdict du procès en appel des militants de l'IRA et leurs compagnons du bidonville. Il estime que les peines ne reflètent pas la gravité des faits. Maître Ahmed Oul Eli, avocat de la défense des militants anti-esclavagistes, a confirmé le pourvoi en cassation contre la réduction des peines de ses clients. Il entend également ce pourvoi en cassation avant le 18 décembre pour les prévenus encore emprisonnés.
La justice angolaise a différé l'ouverture du procès de 37 personnes accusées de tentative de coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos. Les événements remontent à janvier dernier et les détails nous sont apportés par Nanit Talani.
Le début du procès a été reporté au 2 décembre à la demande des avocats de la défense, selon le président du tribunal de Luanda en charge du dossier, Pedro Fontoni. Les 37 accusés, membres de la branche armée de l'UNITA, le principal parti d'opposition, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d'assassinat contre le chef de l'État et possession illégale d'armes à feu. 2 sont toujours recherchés par la police. Selon le parquet, Les prévenus voulaient lancer un assaut armé contre le palais présidentiel et occuper les locaux de la radio-télévision publique le 31 janvier lors d'un putsch que les médias d'État ont révélé hier à la surprise générale. L'UNITA a catégoriquement nié être impliquée dans cette affaire qui a été révélée le jour même où les autorités ont interdit la manifestation de l'opposition prévue samedi contre la nomination de la fille du président José Eduardo dos Santos, Isabelle, à la tête de la compagnie pétrolière nationale.
16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Une trentaine de chefs d'État sont attendus dans la capitale malgache pour discuter notamment de croissance et de lutte contre le terrorisme. La fin du sommet est fixée pour dimanche.
Ouverture aujourd'hui au Malawi de consultations publiques sur l'homosexualité. Il s'agit de déterminer s'il y a lieu de modifier ou non la législation du pays qui réprime les relations entre personnes du même sexe. La question des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres n'est toujours pas réglée pour le Malawi, a déclaré le ministère de la Justice. En 2010, les autorités ont arrêté et condamné à 14 ans de prison deux hommes qui s'étaient mariés, une première au Malawi. La plupart des pays africains considèrent l'homosexualité comme un crime, à l'exception notable de l'Afrique du Sud.
Le président gambien Yahya Jammeh a affirmé être le meilleur candidat pour endiguer le flux d'émigration clandestine vers l'Europe au cours d'un meeting pour l'élection du 1er décembre. Les Gambiens figurent parmi les premières nationalités de migrants qui traversent la Méditerranée pour atteindre l'Italie, selon l'Organisation internationale des migrations. Monsieur Jammeh, au pouvoir depuis 1994, a appelé les électeurs à lui accorder un cinquième mandat, mais aussi à rester dans le pays.
En Égypte, le groupe État islamique implanté dans le Sinaï serait en recul. Les terroristes tentent certes de maintenir la pression à travers une guerre d'usure, mais ils sont maintenant de plus en plus acculés selon les autorités. Les militaires rasent ainsi les habitations à la frontière avec la bande de Gaza pour créer une zone tampon et détruire les tunnels clandestins. Parallèlement, des points de contrôle se succèdent sur les routes reliant la péninsule au reste de l'Égypte.
L'agence Fitch a maintenu aujourd'hui à bébé sa note de l'Afrique du Sud, première économie du continent, mais révisé sa perspective de stable à négative en raison des risques politiques. Pour l'agence, les risques politiques liés à la gouvernance ont augmenté, resteront élevés jusqu'au moins fin 2017, avec des conséquences négatives sur les résultats macroéconomiques du pays. Par ailleurs, le président sud-africain Jacob Zuma est affaibli par une série de scandales de corruption.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, l'armée syrienne a encore gagné du terrain aujourd'hui dans la partie rebelle d'Alep, la deuxième ville de Syrie, au lendemain de bombardements qui ont tué plus de 30 civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée contrôle désormais 60% du plus grand des quartiers contrôlés par les rebelles et avance rapidement dans l'espoir d'isoler les secteurs nord et sud. La guerre en Syrie a fait plus de 300 000 morts depuis 2011.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a menacé aujourd'hui d'ouvrir les frontières de la Turquie pour laisser passer les migrants vers l'Europe au lendemain d'un vote du Parlement européen qui demande le gel provisoire des négociations d'adhésion de son pays. Les précisions avec John Lyndon.
Les déclarations d'Erdogan surviennent après des semaines d'échanges acerbes entre Ankara et Bruxelles qui accusent les autorités turques de matraquer l'opposition dans la foulée de la tentative du coup d'État de juillet. L'Allemagne a immédiatement répliqué affirmant que menacer le pacte Union européenne-Turquie sur les migrants n'avance à rien. Même message de la France pour qui les surenchères et polémiques sont tout à fait contre-productives. Cette tentative diplomatique fait tanguer un pacte conclu en mars par le gouvernement turc et l'Union européenne qui a permis d'assécher le flux de passagers clandestins vers l'Europe via les îles grecques en mer Égée. L'avertissement du président turc survient à quelques mois de scrutins majeurs en Europe, dont une présidentielle en France et des élections fédérales en Allemagne, deux piliers européens confrontés à la montée des populistes et où la question migratoire risque d'être centrale.
Le président Recep Tayyip Erdogan, qui a réaffirmé accepter de rétablir la peine capitale si le Parlement l'adoptait. Pareille déclaration va à l'encontre des avertissements de l'Union européenne, qui juge cette mesure incompatible avec une adhésion à l'Union. Monsieur Erdogan a brandi le spectre du retour de la peine de mort au lendemain du coup d'État manqué de juillet dernier.
Plus de 6000 enseignants turcs qui avaient été suspendus après le putsch manqué en juillet ont été rétablis dans leurs fonctions, selon le ministère de l'Éducation.
Ici aux États-Unis, alors que Donald Trump continue à mettre en place son équipe gouvernementale, une démarche est en cours pour invalider les résultats de la présidentielle dans trois États qui ont contribué à la victoire républicaine au Collège des grands électeurs. Selon la candidate écologiste Jill Stein, dit avoir ramassé assez d'argent pour exiger un nouveau décompte en Pennsylvanie. Elle l'a déjà annoncé au Wisconsin et espère en faire autant dans le Michigan.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco avec Nanit Talani.
Le Cameroun réussit in extremis sa levée de fonds de 7 milliards de francs CFA sur le marché très sollicité de la Banque des États de l'Afrique centrale. Selon le communiqué de cette banque, le taux de couverture de la demande camerounaise a été juste de 100,6%, très loin des 300 à 500% auxquels les investisseurs de ce marché des titres ont souvent habitué les autorités camerounaises. De plus, les investisseurs ont proposé des financements à un taux d'intérêt moyen de 2,5% contre au plus 2% par le passé. En Côte d'Ivoire, les besoins en financement des petites et moyennes entreprises sont aujourd'hui estimés à 3574 milliards de francs CFA, selon une étude du cabinet S-Partners rendue publique hier. Toutefois, en face, les engagements des banques et institutions de microfinance à leur endroit ne s'élèvent qu'à 1464 milliards de francs CFA, soit environ 40% des besoins en financement. Il y a donc 60% des besoins en financement qui sont encore non comblés. Enfin, Royal Dutch Shell est en discussion avancée avec un éventuel acheteur pour ses opérations terrestres au Gabon dans le cadre de son plan de cession d'actifs de 30 milliards de dollars. Jusqu'à maintenant, Shell a vendu ou est parvenu à des accords pour 6 milliards de dollars d'actifs. Les offres pour ses actifs pétroliers au Gabon, dont une source a estimé la valeur aux alentours de 700 millions d'euros, devait être soumise en juin dernier.
Les sports tout de suite et c'est avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Anastasie.
On commence avec la CAN 2016. L'Afrique du Sud termine en beauté.
Oui, les Lions, déjà qualifiés, ont battu le Zimbabwe 2-0. Et puis la démonstration, la correction, la gifle ce soir. Les Égyptiennes qui sont battues sévèrement par les Sud-Africaines, 5-0. Et demain, les derniers matchs du groupe B, le Kenya face au Nigeria et le Mali contre le Ghana.
Et le tournoi de l'UMOA qui démarre demain au Togo.
La grande messe du football ouest-africain, 7e édition réservée aux joueurs locaux. Elle s'ouvre à Lomé, le pays organisateur, le Togo, qui n'a jamais remporté l'épreuve. Il fera face au Mali au stade Kégué. L'autre rencontre de cette poule A, la Côte d'Ivoire face au Niger. Et à suivre dimanche dans le groupe B, le Burkina Faso face au Sénégal et le Niger contre la Guinée-Bissau.
Et puis football, on parle gros sous, le Bayern de Munich qui n'a jamais engrangé d'aussi gros bénéfices.
Oui, quelques heures avant de réélire Uli Hoeness à la présidence du club, ce vendredi soir lors de l'Assemblée Générale, le Bayern Munich a communiqué les résultats financiers de la saison 2015-2016 et ils sont spectaculaires puisque le chiffre d'affaires progresse de 20% en un an, un niveau record de 625 millions d'euros. C'est 100 millions de plus que l'année dernière.
Le numéro 2 de l'ancien comité olympique kényan a été inculpé de vol.
Bernard Ekumbo est le quatrième haut responsable du comité olympique kényan à être inculpé dans une série de scandales qui ternit la réputation du pays mondialement connu pour l'excellence de ses coureurs de fond. Ekumbo est accusé d'avoir dérobé 1 million de shillings kenyans, soit 10 000 euros, et d'avoir fait main basse sur des cartons contenant les tenues officielles des athlètes, dont l'équipementier et l'américain Nike. Lors de la cérémonie d'ouverture à Rio, souvenez-vous, l'été dernier, les athlètes kenyans ne portaient pas tous les mêmes tenues, ce qui avait éveillé les soupçons au Kenya. Devant la cour, ce vendredi, Ekumbo a nié ses accusations. On rappelle Anastasie qu'à Rio, le Kenya a remporté 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent et une médaille de bronze.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manirakiza et Anastasie Tudiège, de retour avec vous. Place au dossier du jour et la première escale, Eric, est à N'Djamena.
Exactement, Anastasie, donc au Tchad, où la grève qui paralyse l'administration publique depuis 3 mois est loin de s'estomper. Le dialogue entamé par le gouvernement avec ses partenaires sociaux ne semblait pas en mesure de dénouer la crise. D'un côté, les syndicats exigent d'abord le paiement des arriérés de salaire, mais de l'autre, le Premier ministre Paimi Padake Albert demande aux grévistes d'observer une trêve sociale de 12 mois pour relever ensemble le déficit de la crise. Pour réaction, VOA Afrique a joint à N'Djamena le président de l'Union des syndicats du Tchad, Barka Michel.
C'est une décision importante qui nécessite une consultation de la base. Et jusqu'aujourd'hui, c'est justement hier, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pu obtenir l'avis de la base sur le principe même de la trêve et sur le nombre de mois à accepter pour négocier. Et j'ai pu vous dire que cette décision nécessite une large consultation et qui n'est pas encore obtenue.
Est-ce que le Premier ministre comprend au moins la légitimité de vos revendications?
Il est tout à fait d'accord que tout le monde s'assoie pour discuter des mesures à prendre afin de faire face à la crise, qui aujourd'hui a tout bloqué dans le pays. Mais j'espère bien qu'il ne va pas commencer par nous dire « prenez totalement ce que nous on a déjà mis en marche ». Ça, ce n'est plus la négociation. On aimerait bien qu'ensemble, on remette tout à plat, on rediscute et on essaie de voir exactement quelles sont les mesures efficaces qu'il faut retenir pour faire face à la crise.
Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui?
Ça fait 3 mois, il y a des arriérés de salaire. Nos travailleurs vivent dans des conditions actuellement très difficiles. Et il y a des familles entières qui n'arrivent pas à avoir de nourriture par jour et nous sommes obligés de demander au gouvernement de payer les arriérés de salaire pour nous permettre de discuter sereinement dans les conditions dans lesquelles nos travailleurs se trouvent. Nous ne pouvons pas commencer tant que ces arrêts ne soient payés.
Donc le gouvernement est réticent?
Ah, mais nous, on a été clair depuis hier et ce matin encore. On s'est rencontrés dans le cadre du comité national de dialogue social. Et nous avons dit la même chose. Il faut que le gouvernement fasse des efforts pour nous payer les salaires.
Et quelles sont les concessions possibles de votre côté?
Dès qu'il aura payé le salaire, nous allons examiner sa demande de trêve. Nous verrons bien qu'est-ce qu'il faut dire, mais nous, on a des propositions concrètes pour juguler la crise.
Selon vous, est-ce que cette crise peut trouver une solution durable?
Eh bien, si le gouvernement le veut, il va de son intérêt d'accepter cette fois-ci des discussions sincères.
Pour vous, c'est laquelle, la solution magique?
Il faut s'attaquer au problème de recettes. Tout le monde se demande mais pourquoi les recettes ne tombent pas. Il n'y a pas que le problème de chute du prix du baril, mais les recettes douanières, les recettes fiscales, il y a plein de choses. Pourquoi nous n'avons pas de recettes? À cette question-là, il faut bien travailler, il faut essayer de voir à quel niveau ça bloque.
Barka Michel, N'Djamena au Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
République démocratique du Congo, une semaine après sa nomination au poste de Premier ministre, Sami Badibanga consulte l'opposition, la majorité et la société civile afin de composer son équipe gouvernementale. Les résultats sont attendus ce week-end. Le rassemblement, qui n'a pas pris part au dialogue, n'a pas échangé avec le chef de l'exécutif congolais, mais Vital Kamerhe a annoncé hier que son parti politique, l'UNC, ainsi que ses alliés, prendront part à ce gouvernement d'union nationale. Reportage tout de suite de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Recueillir différents avis des acteurs politiques et de la société civile sur le prochain gouvernement. C'est l'objectif des consultations menées par le nouveau Premier ministre. Pour le secrétaire général de la majorité présidentielle qui a échangé avec Sami Badibanga, il ne s'agit pas d'un simple partage de postes ministériels, mais plutôt des idées constructives. Obeminaku.
Nous lui avons remis les propositions de la majorité présidentielle quant aux assignations de ce gouvernement, quant à la structuration, à la composition. Pour le reste, nous sommes disposés à échanger avec le Premier ministre parce qu'il n'est pas question d'une sorte de partage de gâteau.
L'Union pour la nation congolaise a confirmé sa participation au prochain gouvernement, mais sous certaines conditions. Le parti de l'opposant Vital Kamerhe a demandé au Premier ministre de se pencher notamment sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe.
C'est la voie de la paix que nous avons choisie contre les chaos proposés par les autres. D'aussi, nous allons voir le Premier ministre en lui disant que nous participons, mais en lui demandant d'avoir une attention particulière sur la question de l'est. Nous pouvons y aller. Voilà donc que nous l'avons fait. Nous avons dit au Premier ministre exactement ceci. L'UNC et alliés acceptent de vous accompagner, monsieur le Premier ministre c'est Sami Badibanga, dans l'application de l'accord du 18 octobre pour amener le pays jusqu'aux élections. Mais vous devez tenir compte de la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le Grand Nord.
Le président du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, a également été reçu par le Premier ministre. L'ancien vice-président Azarias Robéroy s'est dit optimiste quant à la compétence de la prochaine équipe gouvernementale.
Il y a une série de questions qui nous a posées, comme Rassemblement congolais pour la démocratie, donc le parti politique. Et nous avons apporté des réponses qu'il a jugées satisfaisantes à ce stade.
Et pour Marie-Madeleine Kalala de la société civile, des efforts doivent être conjugués pour le respect de l'accord du dialogue de la Cité de l'Union africaine.
Nous pensons qu'il nous appartient justement de participer à la mise en œuvre de cet accord politique. Vous avez parlé du gouvernement d'Union nationale lui-même, de sa composition, comment on voyait ce gouvernement. Nous lui avons donné nos premières impressions. La conversation va continuer sur cette question-là.
Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Direction maintenant le Togo. 3 000 de personnes décèdent chaque année en cause les facteurs polluants comme le CO2 que produisent les voitures. Pour limiter cette pollution, la tendance est aux voitures solaires et électriques. Un modèle de voiture désormais produit au Togo, à Lomé. Nous retrouvons notre correspondant Kai Lawson.
Le Togo peut-il être considéré comme un pays qui fabrique des véhicules? Oui, nous répond la société Le Monde de l'énergie. Cette structure vient de mettre sur le marché togolais des voitures hybrides qui fonctionnent à l'électricité et à l'énergie solaire. John Comlin de la société Le Monde de l'énergie.
Nous avons des problèmes de nuisance sonore dans la ville. Et ces voitures, c'est zéro bruit, c'est zéro carburant aussi. Elle n'a pas une portée seulement environnementale, mais une portée économique aussi. Puisque vous ne dépensez pas en carburant, vous ne dépensez pas aussi en vidange et en maintenance réelle pour des voitures à carburant.
Lancée il y a moins de 3 mois, la voiture togolaise séduit plus d'un et même au-delà des frontières. Le défenseur de l'environnement, le Ghanéen Wisdom Adjavlo, de retour de la COP22, a fait un tour au Togo pour apprécier le chef-d'œuvre togolais.
Honestly, it's a very good innovation.
Honnêtement, c'est une très bonne innovation. Ce que nous venons de voir est très encourageant pour l'avenir de l'environnement. Nous sommes convaincus que c'est un début et c'est quand beaucoup de personnes pourront avoir accès à ces voitures que nous pourrons dire « nous nous acheminons vers nos objectifs ». Ces voitures vont aider à réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré et pourquoi pas à 0 degré.
Not 1.5.
Parfait pareil, technicien au monde de l'énergie nous parle de l'autonomie de ces voitures hybrides.
De manière standard, nous avons des véhicules qui ont une autonomie de 120 km. Mais par rapport à cette autonomie, il faut aussi associer la part du soleil là-dedans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la personne est en train de rouler, il y a une partie de l'énergie dépensée qui est en train d'être rechargée par le panneau solaire. Donc les véhicules qui font 120 km pourront passer à 160 km ou 170 km.
Certains Togolais souhaitent en posséder, mais se retrouvent dans l'impossibilité faute de moyens. Aignon Vouti.
C'est vrai que le coût pour le moment n'est pas accessible à tous les Togolais, mais cette idée de voiture électrique ne vient que de démarrer. Donc je crois que par rapport à ce coût, une étude sera faite pour voir comment on peut mettre ça à la disposition du commun peuple.
Pour Sena Aluka de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Togo, le jeu en vaut la chandelle.
Vous ne payez pas de carburant, donc vous faites une économie importante. Et puis l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous ne tomberez pas malade de votre propre voiture. Actuellement, nos voitures nous rendent malades.
Les voitures hybrides made in Togo ont une vitesse maximale de 60 km/h, disposent de caméras de recul, de ventilateurs et de radios intégrées. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Politique américaine à présent. Donald Trump a beau se préparer à prendre les rênes de la Maison-Blanche le 20 janvier, certains de ses adversaires politiques refusent de s'avouer vaincus. Du nombre, la candidate du Parti des Verts, Jill Stein, qui a pris la tête d'un mouvement visant à invalider la victoire du républicain dans trois États clés, le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan. Un tel revirement est-il possible? Quelles en seraient les conséquences? Pour des éléments de réponse, Jacques Aristide a joint le professeur Daniel Di Salvo de City College à New York.
À mon avis, c'est une manière pour Jill Stein de relancer sa nom dans la presse américaine et peut-être d'essayer de changer les élections. Et c'est une tactique pour satisfaire la gauche, l'extrême gauche aux États-Unis, qui est évidemment pas très heureuse avec les résultats de l'élection présidentielle.
Mais si les efforts de Jill Stein aboutissent en faveur de sa demande, cela pourrait-il changer l'issue de l'élection, même si la démocrate Hillary Clinton, qui était la principale rivale de Donald Trump, a déjà concédé sa défaite et n'a pas à ce jour contesté les résultats?
Ça va probablement pas changer les résultats de les élections. Hillary Clinton et son équipe a dit clairement dans les médias qu'ils sont pas intéressés par de récompter les voix dans les différents États, et ils sont satisfaits avec les résultats, qu'ils ont dit qu'ils sont légitimes et que Donald Trump, c'est le président élu des États-Unis.
Cette demande de recompter les voix relance-t-elle également la controverse sur la sécurité du système électoral américain, qui inclut le vote électronique, surtout après les accusations contre la Russie d'avoir orchestré des piratages informatiques?
On peut jamais être sûr parce qu'ils n'ont pas ouvert les urnes, mais s'il y a quelque chose comme ça, mais il y a toujours les difficultés aux États-Unis que tout, c'est les États fédérés qui sont responsables pour compter les voix et il y a beaucoup de différences entre tous les États, mais à mon avis, ça va pas probablement changer les résultats ni soulever les suspicions que les Russiens ont changé les résultats de l'élection en faveur de Donald Trump.
Est-ce que cette demande remet-elle également en question le système des grands électeurs?
Non, à mon avis, non. Je pense que le résultat, le fait que Hillary Clinton a gagné les votes populaires, mais elle a encore, selon les règles de l'Electoral College, elle a perdu l'élection. Ça, c'est fait ainsi. Je crois que ça, c'est beaucoup plus important que les petites suspicions que les risques des services d'intelligence ont changé les résultats.
Daniel Di Salvo, professeur à City College à New York.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme, Highland Music. music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31 40. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Lionel Runaniragahima a été à la mise en onde à la console John Durden. Présentation Anastasie Toudier chez Eric Manilakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'avoir suivi VOA Afrique. Rendez-vous sur Facebook et voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.